buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
People were left without belongings, without roofs over their heads, without even basic information about what had happened, what they should do, and where they could seek help. That was a failure of the state, local and national.
Bonjour à tous. Les autorités locales et nationales n'ont pas été à la hauteur. Déclaration de Theresa May une semaine après l'incendie meurtrier de la tour de Grenfell qui a fait au moins 70 morts et disparu à Londres. Ce jeudi matin, le chef du conseil du quartier de Kensington Chelsea a présenté sa démission et le gouvernement a annoncé que la soixantaine de familles qui vivaient dans cette tour de logements sociaux allaient être relogées dans le quartier, dans un immeuble plutôt cossu, aux côtés de particuliers qui ont déboursé un, voire plusieurs millions pour acquérir leurs biens. Une annonce qui ne plaît pas à certains d'entre eux, c'est la mixité sociale à la britannique poussée à son extrême, Marie Billon.
Je n'avais jamais remarqué cette tour, constate Ira, producteur de cinéma américain, qui vit pourtant depuis des années à quelques mètres de Grenfell Tower, dans l'une de ses nombreuses villas cossues du quartier. C'est ça, la mixité sociale à la britannique. Les plus aisés vivant à côté des bénéficiaires de logements sociaux. Tout va bien tant que chacun peut s'ignorer ou en tout cas faire semblant. Car les plus pauvres ne peuvent pas manquer de voir cette richesse juste sous leur nez, et les promoteurs et les agences immobilières, elles, voient ces tours comme une épine dans leur pied. Si ces immeubles n'étaient pas sur des terrains appartenant à l'État, ils pourraient les détruire pour y construire des appartements de luxe. Car dans la plupart des quartiers centraux, seuls les logements sociaux sont des habitations abordables. Résultat, ce sont les plus pauvres et les plus aisés qui y vivent. Les Londoniens à revenu moyen doivent s'exiler en banlieue victimes de la spéculation immobilière. La mixité sociale à la britannique, c'est le mélange de deux extrêmes. Malgré tout, elle demeure un modèle soutenu par de nombreux nationaux, mais ce que cet incendie a révélé aussi, c'est apparemment le système de poids deux mesures appliqué par les autorités locales. L'équivalent de la mairie d'arrondissement, le Council, semble avoir fait la sourde oreille aux inquiétudes manifestées à de nombreuses reprises par l'association des résidents de la tour. La sécurité de l'immeuble, les procédures d'évacuation en cas d'incendie leur posaient justement ceci. Ces plaintes émises par les habitants d'une belle tour en verre auraient-elles été mieux entendues? L'ironie, c'est qu'une semaine avant cette tragédie, la circonscription de Kensington a, pour la première fois de son histoire, été remportée par une députée de gauche. Dans son discours de victoire, la travailliste Emma Dancode avait justement insisté sur cet arrondissement, symbole des inégalités sociales.
En Italie, les élections municipales partielles ont été un camouflet cinglant pour le parti populiste 5 étoiles de Beppe Grillo. Avant même le second tour le 25 juin, la formation a été éliminée des 7 principales villes où se déroulait le scrutin. Il y a tout juste un an, ce sont 2 femmes du mouvement 5 étoiles qui prenaient la tête de 2 villes emblématiques, Rome et Turin. Alors si à Turin, le bilan est jugé satisfaisant, en revanche, la jeune maire de Rome, Virginia Raggi, est sous le feu de toutes les critiques. Elle est accusée d'avoir contribué à cette défaite des candidats dans les autres villes. Administration défaillante, incapacité à trouver des solutions pour les 2 maux de la capitale, la propreté et les transports. Les transports romains que Frédéric Lebel a pu tester sur place.
Quel que soit l'angle de vue, le panorama est sublime. Le Colisée au loin, sur la droite, le monument à Victor Emmanuel II et les marches qui mènent à la place du Capitole. Mais à l'arrêt de bus, la vie des Romains ressemble plutôt à un enfer. Susanna rentre juste du travail.
Je ne veux pas être insultante, alors je me retiens. Mais les transports publics, c'est la pire des choses. Moi, je mets plus d'une heure pour rentrer chez moi, j'en peux plus. Je suis une citadine qui souffre toute la journée de cette situation. Mais il n'y a pas que les transports, tout part en capilotade à Rome. Rien ne marche, c'est vraiment nul.
Un ras-le-bol qui s'exprime désormais sur les réseaux sociaux sous le hashtag Roma fa schifo. Rome, c'est nul pour rester poli. Une longue litanie de plaintes qui parle de poubelles non ramassées et de bus en panne, sans parler des métros. 3 lignes à peine pour une ville de presque 4 millions d'habitants. Il est vrai que les retards dans l'extension de la ligne C n'ont rien de politique. Ce sont les trésors antiques découverts à chaque coup de pelleteuse qui sont à blâmer.
Prossima fermata, Santa Maria del Soccorso. Treno che Laurentina.
Maxa, Santa Maria del Soccorso, Trentino, Laurentina.
Dans la 7e commune, sur les 15 qui composent Roma Capitale, Tor Sapienza, un quartier de banlieue oublié. David Mazzella y est carrossier. Heureusement, nous explique-t-il, il ne travaille pas dans le centre.
En ligne d'aria, dal centro storico della città, siamo a 9 km.
Ici, on est à seulement 9 km du centre-ville, du Capitole. Dans n'importe quelle autre capitale, il faudrait 20 minutes pour y aller. Mais ici, ça prend 1h30, 2h parfois. Pour aller dans le centre, il faut prendre des trains qui sont de vraies bétaillères, tellement c'est dégradé. Rien que pour aller à la gare Tiburtina, pas loin d'ici, il faut prendre un train, puis un autre bus. Il faut déjà 1 heure et après d'autres transports pour arriver au centre-ville.
Dans le café face à l'église, Roberto Torre, retraité, a pris la tête du comité de quartier pour dénoncer l'inaction de tous les politiques.
C'est pas juste l'impression d'avoir été oublié, c'est la réalité. On se sent vraiment à des années-lumière du Capitole, de la mairie. On sent bien que les politiques n'ont aucune prise sur notre vie quotidienne ici. Il y a quelques bus qui passent, il y a une petite gare de quartier mais qui est complètement dégradée. Les caméras de sécurité sont cassées, les ascenseurs ne fonctionnent plus, il y a des papiers hygiéniques un peu partout. Ici, c'est vraiment une terre de désolation.
La déception est à la mesure des attentes. Lorsqu'elle a été élue avec 67% des voix, il y a tout juste un an à la mairie de Rome, Virginia Raggi avait pourtant tout promis. La fin de la corruption, le retour de la propreté et des transports qui fonctionnent. 12 mois plus tard, l'équipe municipale a été secouée par des scandales à répétition, des démissions et une mise en examen pour corruption. Quant aux transports, les histoires de bus qui prennent feu ne font rire personne, des antiquités romaines elles aussi, mais d'une toute autre nature. À la mairie, Enrico Stefano est le jeune adjoint chargé des transports et il répond aux critiques.
Oui, les bus qui prennent feu, c'est un problème très grave qui est dû à notre parc qui est à bout de souffle. Alors on a lancé des appels d'offres pour renouveler 150 bus cette année. Et il va y en avoir 60 autres au méthane, donc écologique. Et l'année prochaine, on va encore intégrer 150 nouveaux bus.
Circa 150 autobus à l'année.
Les projets, une quatrième ligne de métro, des pistes cyclables, il y en aurait beaucoup, mais la ville croule sous un endettement de 13 milliards d'euros et la régie des transports publics à Rome a estimé à 30% le nombre d'usagers qui circulent sans titre de transport. Reste la voiture, mais là encore, ça n'est pas une sinécure. En route avec Massimo, chauffeur de taxi depuis plus de 25 ans. À Rome.
Là, on est pourtant via Parioli, dans une zone assez résidentielle. Vous voyez par vous-même, il y a des voitures garées en double file et puis des grosses poubelles qui sont n'importe où. C'est comme ça à Rome. On fait des rotations en taxi de 8 heures par jour. Mais la plupart du temps, on est à l'arrêt à cause des bouchons. Ça n'avance pas ici.
Elles sont comment les routes à Rome ?
Les rues sont vraiment en piteux état, il n'y a personne pour les entretenir. On aimerait bien que la mairie se mobilise parce que ça abîme nos voitures. Vous voyez les trous ? Il y a les rails des tramways qui dépassent. Il y a des bords de trottoirs sur lesquels on doit rouler. Ça nous donne des maux de tête, des maux de dos, c'est vraiment fatigant.
Face au flot de critiques, Enrico Stefano à la mairie veut garder la tête froide avec un argument de poids.
Certains habitants sont patients, mais d'autres beaucoup plus énervés. Il faut donc faire de la pédagogie et leur expliquer que c'est pas en un an ou deux qu'on peut changer les choses. Il ne faut pas oublier que pendant 20 ans, la ville a souffert d'une mauvaise gestion.
La ville éternelle s'impatiente. Il reste 4 ans à l'équipe municipale pour rénover les transports.
Hard times, good times, real times, hood times, meantime. This is food for the soul.
Depuis dimanche, le Refugee Food Festival régale les papilles des amateurs de cuisine du monde. Il se tient simultanément dans 14 villes d'Europe, dont Paris. Originaire de Syrie, de Géorgie, d'Afghanistan, mais également de Côte d'Ivoire, d'Irak et du Sri Lanka, des réfugiés, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ont pris leur quartier dans les cuisines de chefs français le temps d'une ou deux journées. À Paris, le reportage d'Assel Kipchakova.
Ce matin-là, dans la cuisine du restaurant Les Pantins, près de Paris, Le service ne commence pas comme d'habitude. C'est Nabil Attar, cuisinier syrien, qui est au fourneau. Et c'est le chef français du restaurant, Walid Saed, qui présente les ingrédients du plat du jour, le fariké.
Le blé vert, il y a aussi des petits pois. Dessus, on a mis de l'agneau qui a été confit, des amandes, des filets, avec des petites branches de ciboulette, un peu de yaourt avec des herbes dedans et des concombres pour apporter un peu de fraîcheur. Un peu de sel de Guérande dessus, c'est la seule touche française.
Pour Nabil, cette formidable expérience succède à son douloureux départ de Syrie, il y a un an et demi. Ce quadragénaire reste très discret à ce sujet, tout juste sait-on qu'il a été ingénieur pendant près de 16 ans. Aujourd'hui, il vit avec sa famille à Orléans et prend ce que la vie lui offre.
J'avais un bon travail, une très bonne situation, mais certaines raisons m'ont poussé à quitter mon pays. Mais je crois que si tu réussis un jour quelque part, tu réussiras à nouveau. Ça, je le crois vraiment.
Il espère ouvrir en France un restaurant traiteur de spécialités syriennes. Autre parcours, autre réfugié qui participe à cette manifestation, Magda Gegenava, géorgienne. Ce qui l'a fait fuir son pays, ce n'est pas la guerre, mais des menaces contre sa famille. Avant de s'installer en France, ce médecin a vécu en Russie et en Ukraine. Magda dit connaître parfaitement la cuisine de ces pays et n'a pas peur de se lancer dans ce projet ambitieux, ouvrir un restaurant à la mode soviétique qu'elle nommera Back to USSR. Participer à ce festival lui donne surtout la possibilité de rencontrer les gens.
Pour moi, c'est tout bénéfique. Je peux m'imprégner de leur culture. L'échange avec les gens vaut de l'or. Il faut toujours être au bon moment, au bon endroit. Si Dieu te le donne, il faut prendre.
Cette géorgienne dit se sentir en sécurité en France et tient à exprimer sa gratitude envers l'Europe.
L'Europe n'a pas de frontières. Je vois qu'ici, on essaie de t'aider par tous les moyens, de te faciliter la vie. Dans ce pays, mes enfants sont en sécurité. Les études, le logement sont gratuits.
L'une des ambitions de ce festival est bien de mettre en avant les richesses culturelles des cuisiniers, là où trop souvent, on ne voit que des réfugiés. Louis Martin, cofondateur de l'événement.
On est parti du constat qu'il y avait énormément de discours misérabilistes et anxiogènes qui étaient véhiculés autour de l'arrivée et de l'accueil des réfugiés en France et en Europe d'une manière générale et qui nous font oublier que toutes ces personnes, c'est des personnes comme vous, comme moi, qui ont des compétences, des savoir-faire, un bagage culturel et plein de choses à apporter à la société et qui ont notamment un patrimoine culinaire.
En quelques éditions, le festival est aussi devenu un tremplin vers l'emploi. Plusieurs réfugiés ont été embauchés par des chaînes de restauration et d'hôtellerie en France, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est dans ce sens-là que les organisateurs du festival travaillent en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
En France, les dernières législatives ont assuré une confortable majorité parlementaire au nouveau chef de l'État, malgré un taux d'abstention inédit. Qu'en est-il chez nos voisins européens, où plusieurs élections générales viennent de se dérouler ou vont se tenir dans les prochains mois? Est-ce que les majorités gouvernementales y sont confortables ou non? Nous voyons tout cela avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Le taux de participation constaté en France pour ce second tour, 42,6%, a-t-il son équivalent en Europe?
Dans le cadre d'un premier tour d'élection parlementaire, il n'y a que deux pays qui ont fait moins bien que la France en 2017. La Bulgarie, moins de 43% de participation, et la Roumanie, moins de 40%. Cette participation reste assez faible dans la plupart des pays de l'Est, entre 50 et 60%. Chez nos grands voisins, le nombre de votants oscille entre 66% en Espagne et 75% en Italie. Et puis, au Nord, les 80% de participation sont allègrement dépassés, avec un record pour la Belgique, plus de 89%. Belgique où, il est vrai, le vote est obligatoire.
Avec 328 députés, le mouvement La République En Marche réunit 55% des élus, soit la majorité absolue à l'Assemblée. Si l'on y ajoute l'autre composante intégrée de la majorité, à savoir les 42 députés du Modem, on arrive à un groupe majoritaire de 62%. Y a-t-il un pays d'Europe où la majorité parlementaire est plus importante qu'en France ?
Si l'on met de côté certains petits pays à coalition multipartisane, il faut citer l'Allemagne. car si la CDU de la chancelière Angela Merkel n'a pu réunir en 2013 la majorité absolue du Bundestag avec 49,2% des députés, la grande coalition qui a été alors formée a inclus dans la majorité les députés sociaux-démocrates. Du coup, la coalition CDU-SPD pèse 80% au Bundestag. Mais les deux partis au pouvoir espèrent bien mettre fin à cette alliance à l'occasion des élections de septembre prochain.
Et au Royaume-Uni, majorité étroite semble-t-il depuis quelques jours.
Absolument, la Première ministre Theresa May a complètement échoué dans sa tentative d'élargir sa majorité en convoquant des élections générales anticipées il y a 15 jours. À l'inverse, les conservateurs ont perdu leur majorité absolue à 10 sièges près. Pour atteindre celle-ci, ils continuent de mener de laborieuses négociations avec le petit parti unioniste démocrate d'Irlande du Nord.
Est-ce qu'on trouve d'autres gouvernements minoritaires en Europe ?
Oui, à commencer par l'Espagne, où depuis les élections de 2016, les conservateurs du Parti Populaire de Mariano Rajoy dirigent le gouvernement en s'appuyant sur leurs 33% de députés qui sont épaulés du bout des doigts et avec la plus grande vigilance par les 14% de représentants du parti centriste Ciudadanos. Cela ne fait même pas à eux deux la majorité absolue. Mais jusque-là, le parti socialiste espagnol a accepté de ne pas entraver l'action gouvernementale. Comme il devrait bientôt changer de stratégie, de nouvelles élections se profilent. En Suède non plus, les sociaux-démocrates au pouvoir ne réunissent qu'un tiers des députés et même avec l'apport du parti de gauche, ils n'atteignent pas la majorité absolue. Mais l'on sait que dans ce pays, l'opposition n'est jamais systématique.
Les majorités sont-elles plus nettes dans d'autres pays ?
En Pologne, le parti ultra-conservateur Droit et Justice détient à lui seul la majorité absolue avec 51% des députés. Au Portugal, la coalition de gauche menée par le parti socialiste contrôle 53% de la Chambre. Le groupe majoritaire atteint 55% des députés à la Chambre en Italie, avec plus de 47% pour le seul parti démocratique du président du Conseil. Enfin, avec des partis très minoritaires, les coalitions au pouvoir aux Pays-Bas ou en Belgique disposent de 56% des députés.
Merci Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt.
À bientôt Laurent.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Les voix cinématographiques des deux héros Astérix et Obélix, les irréductibles Gaulois, des Gaulois voyageurs qui ont arpenté la Corse, l'Écosse, l'Hispanie et la Belgique. Le musée de la BD de Bruxelles rend hommage à l'un des albums cultes de la série, Astérix chez les Belges, Laxpilota.
Irascible louche, de la vie partout à 10.
Qui c'est qui est gros ?
L'album Astérix chez les Belges est truffé de références à la gastronomie, au vocabulaire typiquement belge, à des personnes célèbres, des tableaux, des poèmes, des chansons. L'exposition livre des clés de lecture pour ceux, y compris des Belges, qui n'auraient pas tout trouvé. Facile, la réplique « ce n'est pas très accidenté chez vous ». Réponse du Belge « dans ce plat pays qui est le mien, nous n'avons que des oppidums pour unique montagne ». Référence à la chanson de Brel, « le plat pays ». Plus compliqué, Eddy Merckx, le champion cycliste d'origine bruxelloise, fait une apparition sous les traits d'un coursier à la vitesse exceptionnelle. On peut voir les facsimilés des planches de BD au fil de l'exposition avec leurs explications de texte ou de dessin. Exemple, le banquet final est largement inspiré d'un tableau du peintre belge Peter Bruegel. Uderzo et Goscinny ont vécu et travaillé ensemble à Bruxelles. Ils connaissent donc très bien les subtilités de la langue également. La drache, une fois, savoir au lieu de pouvoir, septante. Ils ont aussi certainement goûté à ce plat, le Waterzooi, et parodie les vers de Victor Hugo sur la bataille de Waterloo. « Oh Waterzooi, 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 morne plat ». Le ciel a bien failli tomber sur la tête des Gaulois pour cet album. Goscinny n'en verra pas la totalité, il meurt d'une crise cardiaque en 1977. Uderzo décide cependant de poursuivre les aventures d'Astérix et Obélix en créant les éditions Albert René.
Et c'est Françoise Grelot qui a assuré la mise en onde et la réalisation de cette édition. On se retrouve demain dès 17h40 en universel.